Alors nous venons de chanter que nous voulons marcher aux côtés du Seigneur.
Oui.
Et cet après-midi et demain, le Seigneur nous propose de marcher avec le Père Descouvement. Le Père Descouvement nous a-t-il dit tout à l'heure est prêtre du diocèse de Cambrai. Ne soyez donc pas étonnés qu'il vous raconte plein de bêtises. En plus, il a un certain charisme pour s'adresser à nous avec une tonalité particulière et que vous découvrirez en marchant avec lui et avec le Seigneur. Eh bien, bonsoir à tous.
Bonjour.
Effectivement, j'habite à Cambrai, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a là-bas une icône qui a été la seule image de la Sainte Vierge dans laquelle la petite Bernadette de Lourdes n'a pas fait l'amour quand on lui a présenté tout un livre en présentant la Sainte Vierge. Elle a fait l'amour devant toutes les images, plutôt devant l'icône de Cambrai. J'habite un collège qui s'appelle l'institution Notre-Dame de Grâce à cause de cette icône, Notre-Dame de Grâce, une icône du 14e siècle, pas plus souriante que les autres, on ne sait pas pourquoi Bernadette a aimé cette icône plus que les autres. Si vous n'aviez pas parlé de Cambrai, j'aurais pas dit ça. Bon. Le but de cette rencontre, c'est donc de vous aider à être plus à l'aise dans votre foi. Je rappelais tout à l'heure, où j'apprenais à l'équipe diocésaine de Nantes, que toutes mes conférences sont parties des CM2. Pendant des années, j'ai aidé des instituteurs et des parents d'élèves à répondre aux questions des gamins de CM2. Jusqu'au jour où les papas m'ont dit « Mais vous devriez faire ces conférences pour tous les parents du collège. » Et c'est l'origine de toutes mes conférences. Alors j'ai distribué des kilos et peut-être maintenant des tonnes de polycopiés jusqu'au moment où un éditeur m'a proposé de le faire en bouquin. Vous verrez, j'ai un petit livre de poche de 550 pages. Vous voyez, il y a des difficultés. Ce sont des questions de CM2 et d'énarques. Les énarques posent les mêmes questions que les CM2. On m'a dit un jour que c'était pas gentil pour les CM de dire des choses comme ça. En tout cas, s'il y a des énarques ou des polytechniciens dans la salle, soyez bien sûr que je les respecte vraiment fraternellement et que je dis ça avec l'humour que vous devinez. Alors on va commencer tout de suite par quelque chose. J'aime beaucoup parler pendant la digestion, vous voyez. J'ai toujours été avec, parce que j'aime beaucoup remuer les gens pendant la digestion, vous voyez. J'ai vraiment une question qu'on m'a posée, je ne sais combien. J'ai été prof de philo pendant plus d'un quart de siècle. Les élèves m'ont dit, mais comment faites-vous pour être prof de philo et prêtre en même temps? Quand vous êtes prof, il faut tout expliquer, vous êtes terrible, sinon vous mettez dans la marge, justifiez votre assertion. Et quand on vous voit célébrer la messe, on a l'impression que vous avalez des couleuvres.
Vous savez que l'Église catholique est celle qui professe le plus de mystères. Je ne pense pas qu'il y ait une seule religion qui ose affirmer un tas de choses incroyables.
Un seul Dieu en trois personnes. Le père de Foucault, en 1886, quand il s'est converti, il a failli devenir musulman plutôt que chrétien. Vous ne me ferez jamais croire. Qu'un égale trois.
Le prêtre le plus célèbre de France, l'abbé Pierre, il a perdu la foi en seconde, alors qu'il s'est fait un cours de religion à Lyon.
Dans le cours obligatoire de religion du dimanche matin, comme c'était à l'époque, tout d'un coup il s'est dit, mais pourquoi vais-je devenir prêtre? Si j'étais en Afrique du Nord, je deviendrais marabout. Si j'étais en Inde, je deviendrais gourou. Et il est devenu, il serait New Age aujourd'hui. Il est devenu hindou pendant 2 ans, jusqu'en terminale. Et c'est en terminale qu'il est tombé sur le mot de Dieu, « Je suis celui qui suis ». Il m'a dit que c'était pas dans la Bible, parce qu'il ne lisait pas la Bible à ce moment-là, il était dans quel bouquin. Et ça a bouleversé sa vie. Dieu est quelqu'un. Plus de la moitié des hommes d'aujourd'hui n'y croient pas, mes chers amis. 99% des Japonais n'osent pas croire que Dieu soit quelqu'un qui nous connaît et qui nous aime. C'est pas évident. C'est évident que c'est pas évident. Vous vous chantez comme ça, Dieu nous aime, etc. Tant mieux, moi aussi j'y crois. Mais c'est pas évident. Il y a des gens très intelligents qui n'y croient pas. Et qui ne refusent pas forcément l'Esprit Saint. Les 7 sacrements, ça fait ça d'un coup. Il est grand le mystère de la foi. Ce soir, j'ai envie d'en réconcilier certains avec le sacrement de réconciliation. J'aime beaucoup ça. Hein? Le ciel, l'enfer, le purgatoire, les anges, l'immaculée conception, la conception virginale. Il y en a marre, il y a toujours des mystères. J'avais pensé faire 52 chapitres dans mon bouquin, un par dimanche, parce qu'il y avait 52 dimanches, 52 mystères dans l'année. Alors comment je fais pour me débrouiller devant tout cela? 3 solutions. Deux, que je ne partage pas, j'irai donc assez vite. Et puis, la solution chrétienne. Première solution, une interprétation tendancieuse des textes que nous avons... Oui, on dirait qu'ils l'ont fait exprès tout à l'heure. Hein. Ils m'ont excité tout à l'heure avec leurs textes. Hein. Ressembler à un enfant. Certains s'imaginent que l'enfance spirituelle, vous savez que j'ai, et il y en a qui savent que j'ai écrit une dizaine de bouquins sur Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, donc je l'aime beaucoup. Et Thérèse a beaucoup parlé de l'esprit d'enfance. Mais il ne faut pas confondre enfance et naïveté. Beaucoup de chrétiens s'imaginent que pour être chrétien, il ne faut pas se poser de questions du tout, il faut faire comme les gosses, avaler sans comprendre. C'est une erreur profonde sur Sainte Thérèse, sur l'Évangile et sur le renouveau. Thérèse était une tête chercheuse. Le verbe que l'on emploie le plus, c'est le verbe comprendre. Je vous ai dit tout à l'heure que toutes mes conférences sont parties des CM2. Les enfants, ils veulent comprendre. Si vous avez des enfants, vous savez le nombre de questions qu'ils vous posent, pas moins pourquoi. Et ce n'est pas de l'orgueil. Le bon Dieu nous a donné une intelligence pour nous en servir. C'est la dernière encyclique qui parle Jean-Paul II. Fides et ratio. Jean-Paul II reprend la grande tradition catholique suivant laquelle on a le droit et le devoir de se servir de son intelligence, de sa raison, pour, dans le domaine de la foi. Tenez, Jésus n'a jamais dit, pas une seule fois dans l'Évangile, Jésus n'a dit, croyez-moi sur mes mots Dieu. Il devait pourtant avoir un sacré regard. Jésus a multiplié les signes, les miracles, pour montrer qui il était. Ce n'est donc pas du tout. Vous voyez, l'Église a toujours été contre ce qu'on appelle le fidéisme. Le fidéisme, c'est cette erreur, condamnée déjà par le premier concile Vatican I, sur laquelle le pape Jean-Paul II revient dans son encyclique, l'erreur suivant laquelle l'intelligence n'aurait pas du tout à intervenir dans le domaine de la foi. Nous y reviendrons au cours du week-end. L'esprit d'enfance, c'est pas ne pas se poser de questions. L'enfant, il cherche à comprendre. Dieu ne nous a pas donné seulement une intelligence pour faire des maths, de la physique et d'électronique, mais aussi dans le domaine religieux. Alors c'est vrai que se servir de son intelligence, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un QI, un quotient intellectuel supérieur. La preuve, c'est que l'Église a canonisé des gens qui étaient très peu intelligents au point de vue intellectuel et très intelligents. Il y a tout. Il y a les petites Bernadettes qui n'avaient pas beaucoup de mémoire, le curé d'Ars, pas beaucoup de mémoire non plus, il a failli d'ailleurs ne pas devenir prêtre à cause de cela. Et puis il y a des super intelligents comme le Maximilien Kolbe, qui était plus fort que tous les professeurs de mathématiques qu'il avait, et qui pendant la guerre 14 a inventé l'engin spatial bien avant la NASA, qu'il avait baptisé l'hétéroplane. Saint François de Sales, le premier à bien parler la langue française. Dans l'Église, il y a des gens très intelligents et des gens moins intelligents. On est bien d'accord qu'il n'est pas nécessaire d'être très intelligent pour aller à Dieu. Mais on a le droit de se servir de son esprit. Donc, première erreur, il ne faudrait pas chercher à comprendre. Tu ne comprends pas, c'est bien fait pour toi, Dieu. Dieu a rien comprend. T'avales, c'est quoi de dire. T'avales l'Eucharistie, tu ne comprends rien, mais c'est pas grave. L'Église, c'est pas ça. Si tu savais le don de Dieu, dit Jésus à la Samaritaine. Deuxième erreur, beaucoup plus fréquente, à l'inverse, ceux qui veulent tellement comprendre qu'ils suppriment les mystères. Ce sont toutes les hérésies de l'histoire de l'Église depuis 20 siècles. Si cet après-midi, je vous explique tellement bien les mystères que c'est plus mystérieux, je vous donne tout à fait le droit d'aller me dénoncer auprès de l'évêque de Nantes. Vous avez fait venir un prêtre dangereux. Ils ont toujours beaucoup de succès, ces gens-là. Ils vous expliquent les mystères, c'est-à-dire qu'ils les suppriment. Ils dissolvent les mystères quand on dissout un sucre dans l'eau. La Trinité, c'est pas si mystérieux ça. Le Père, c'est Dieu. Attention, je vous signale tout de suite que c'est pas ce que je pense. Hein. Il paraît que je fais tellement l'avocat du diable parfois qu'on s'imagine que c'est ma pensée. Donc, cette deuxième tendance consiste à expliquer les mystères, à les supprimer, à simplifier. C'est la tendance de tous les catéchistes du monde depuis 20 siècles. On va expliquer aux enfants, comme ça ils comprendront. La Trinité, les enfants, c'est pas si mystérieux ça. Dieu, le Père, c'est Dieu en tant qu'il nous crée. Le Fils, c'est Dieu en tant qu'il nous sauve. L'Esprit Saint, c'est Dieu en tant qu'il nous habite. C'est plus la Trinité. L'Eucharistie, c'est un symbole. C'est-à-dire que quand vous mangez l'hostie consacrée, c'est comme si vous mangez le corps de Jésus. Mais bien sûr qu'on n'est pas des anthropophages, c'est pas vraiment le corps du Christ. Hérésie. Toutes les hérésies, hérésie ça vient d'un mot grec qui veut dire aérésis, je choisis un aspect du christianisme et je supprime les autres. Luther et Calvin, au XVIe siècle, ont tellement été frappés par la gratuité du salut. Ce matin, lorsque j'étais encore dans une PPP, dans une position parallèle au plancher, Jésus m'aimait déjà. C'est extraordinaire, parce qu'on peut s'étirer le matin, on a du stretching, tout ça. Je suis déjà aimé de Dieu. C'est pas une raison pour rester au pieu, bien sûr. Alors, il a tellement insisté sur la gratuité du salut qu'il a fini par nier la liberté de l'homme. Et ça donne la prédestination. Dieu fait tellement tout qu'on n'est plus libre. Les catholiques, ils disent, on ne voit pas comment concilier la gratuité du salut et la liberté de l'homme, mais on tient les deux bouts de la chaîne. Les mystères consistent toujours à affirmer deux vérités apparemment contradictoires. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Totalement Dieu, totalement homme. Comme l'a bien montré le concile de Chalcédoine en 451. Bon, donc, il y a une grande tendance qui est très fréquente à l'heure actuelle dans l'Église. On revient au XVIIIe siècle français.
Le siècle des Lumières, c'était cela, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, une religion pas trop mystérieuse, dont on supprime tous les mystères. Dans son dictionnaire philosophique, Voltaire dit « Donnez-nous une religion avec peu de dogmes et beaucoup de morale ». Peu de dogmes, c'est-à-dire pas trop de mystères à comprendre. On explique les mystères, on les réduit, on les supprime. L'enfer, bien sûr que Dieu... L'enfer, ça n'existe pas. C'est Dieu qui fait semblant d'être sévère pour qu'on soit sage. Le purgatoire, c'est à prendre d'une façon symbolique. Les anges, d'une façon symbolique. Il y a un tas d'erreurs actuellement dans l'Église à cause de ça. Dans l'Église, enfin, aux franges de l'Église. C'est le problème de beaucoup de vos jeunes. Ils en voient promener le réalisme de la doctrine catholique. Alors, ils préfèrent les élucubrations... de certains, plutôt que le catéchisme de l'Église catholique qui nous rappelle toutes les vérités à croire. Je vous dis tout de suite que je vais avoir certainement beaucoup de questions pour la fin de l'après-midi. Hein. Je fais exprès de vous exciter pour que vous me posiez beaucoup de questions tout à l'heure. Donc, je rappelle deux solutions avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais que je respecte, bien sûr. Tous ceux qui disent qu'il ne faut pas chercher à comprendre du tout, ce qu'on appelle parfois la foi du charbonnier. Mais je vous signale qu'actuellement, il n'y a plus aucun jeune qui est capable de voir ça. C'était peut-être bon il y a 50 ans, mais maintenant, tenez, avec tout ce qu'ils voient à la télévision, le nombre de cérémonies de bouddhistes, de juifs, de musulmans qu'ils voient, bon, on en parlera cet après-midi ou demain, mais je vous en parlerai certainement, comment je peux être sereinement chrétien au milieu de la diversité des religions. C'est un topo qu'on me fait faire énormément dans les collèges. Certitude et tolérance. Deuxième solution, donc première solution, il ne faut pas chercher à comprendre. Deuxième solution, à l'inverse, je veux tellement comprendre que je supprime le mystère. Comme on exprime le jus d'un citron, on supprime ce qui est trop mystérieux. On réduit ça à une forêt de symboles. C'est tout le XVIIIe siècle français et c'est toute la résurgence actuelle du XVIIIe siècle français dans la littérature, bon, etc. La conception virginale, vous n'allez pas me faire croire que vous avez des gens qui... Il y a des catholiques pratiquants qui n'osent plus croire à la conception virginale. Bien sûr qu'il a fallu spermatozoïde de Joseph pour la conception de l'enfant Jésus. La conception virginale, ça voudrait dire simplement que la Sainte Vierge, elle est pure, c'est tout. Il n'y a que ça, pas mystérieux. On n'est pas obligé de croire que Marie est vierge. Au moins une fois par semaine sur RTL ou France Inter, vous avez une moquerie sur l'Église catholique à ce propos-là. Non ? Bon, vous n'écoutez pas trop, tant mieux. Bon. J'ai hâte d'arriver à la solution qui est la solution du chrétien moyennement intelligent comme moi. Hein ? Comment je fais pour me débrouiller devant tous les mystères ? Premièrement, je commence par comprendre une bonne fois qu'il est normal de ne pas comprendre. Et c'est pas une entourloupette. C'est un grand penseur français qui a bien montré cela, Blaise Pascal. Je rappelle qu'au XVIIe siècle, nous avons eu sur le sol de France un génie. À 16 ans, il avait déjà découvert une vérité mathématique qu'on cherchait à travers toute l'Europe. Donc il est devenu célèbre à 16 ans. Ensuite, il a inventé... il a construit de ses mains, il a fait construire, parce qu'il était très ingénieur, la première machine arithmétique du monde. Si vous allez à Clermont-Ferrand, vous irez voir le musée Blaise Pascal, où on expose la première machine arithmétique qu'il a imaginée, parce qu'on n'arrivait pas à faire le petit chouïa qui permettait de passer des unités aux dizaines et des dizaines aux centaines. Ensuite, il a imaginé la notion de pression atmosphérique. Chaque fois que dans le monde...
dans un journal météo, on parle de pression atmosphérique, on parle d'une notion qui a germé pour la première fois dans l'idée, dans le cerveau de Blaise Pascal, celui qui imaginait que l'atmosphère exerçait une pression sur nous, sur la cuve de mercure, et que par conséquent, si l'on faisait l'expérience célèbre de Torricelli, le même jour à Clermont-Ferrand et au Puy de Sancy, ou au Puy de Dôme, eh bien le mercure ne monterait qu'à 73 cm, expérience qui a été réalisée par son beau-frère. Ensuite, il a eu un succès de littérature extraordinaire avec les provinciales. Je vous dirais, il a inventé une apologétique extraordinaire, et puis à la fin, il a imaginé les transports parisiens. Quand je fais une conférence à Paris sur Pascal, je dis, vous allez reprendre le RER ou le métro, qu'est-ce qui a inventé les transports parisiens? Pascal. À la fin de sa vie, il a consacré ses économies à inventer des diligences qui parcouraient la capitale pour les pauvres, sans trop payer. Il a tout fait, cet homme-là. Et alors, c'est le petit raisonnement, chacun sa gloire, c'est à Pascal que j'emprunte ce petit raisonnement tout simple, qui a aidé des millions de gens à être à l'aise dans leur foi vis-à-vis des mystères. Quand mon intelligence se met à réfléchir sur l'infiniment grand ou l'infiniment petit, lorsque je fais de l'astronomie ou de la biologie, je bute sur des mystères, mais je pense que ces mystères sont provisoires. Scrogneugneux de scrogneugneux, nature, je finirai par percer tes secrets. Un jour, on est persuadé qu'en consacrant suffisamment de temps et d'argent, on arrivera à percer le secret de la multiplication anormale des cellules cancéreuses et qu'on arrivera à guérir le cancer. Tous les savants sont persuadés qu'on y arrivera. C'est un mystère provisoire. De même, les trous noirs des galaxies. Les astrophysiciens nous disent qu'il y a un autre monde que celui que voient nos télescopes, un autre monde, une antimatière. Les trous noirs des galaxies. Personne ne sait ce que c'est, mais un jour on est persuadé qu'on y arrivera. C'est l'entreprise de la science. Bon, je vois que la plupart d'entre vous ont des yeux en face des trous. Personne ne sait comment vos yeux se sont formés lorsque vous étiez embryon dans le sein maternel. Comment la peau s'est différenciée pour donner la cornée qui se trouve devant, et le cristallin qui se trouve derrière. Les deux seuls endroits de votre corps où la peau est devenue transparente pour laisser les rayons lumineux arriver jusqu'à votre rétine, c'est là où il faut. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. En 2500, peut-être qu'il y aura un prix Nobel qui sera récompensé parce qu'il aura trouvé le truc. Comment ça se passe? Il y a un tas de mystères dans la nature. Mais ce sont des mystères provisoires. Scrogneugneux de scrogneugneux, j'y arriverai. Au contraire, lorsque ce même esprit se met à réfléchir sur l'esprit humain, et ça je l'ai fait avec des CE2, hein. On peut faire ça aussi en CE1. Vous arrivez en classe, puis vous dites, allez les enfants, on va fermer les yeux, et vous allez réfléchir à ce que vous avez fait ce matin, à ce que vous avez fait hier, à la couleur du chat de votre grand-mère, à ce qui se trouve sur la table de la salle à manger de votre grand-mère. Puis vous allez penser à votre papa, à votre maman, à votre marraine, à votre parrain. Puis sur un petit peu plus grand, à vos sentiments, à vos sympathies, à vos antipathies, à vos émotions. Qu'est-ce que c'est que cet esprit qui est capable de réfléchir comme ça? Personne au monde ne sait ce que c'est que l'esprit. Vous n'y avez peut-être jamais réfléchi de votre vie. Il y en a qui n'y réfléchissent jamais. L'esprit peut s'intéresser à tout et comprendre tout et aller sur la lune. Mais il ne sait pas ce qu'il est. L'homme est à lui-même le plus prodigieux objet de la nature, comme dit Pascal. L'homme passe infiniment l'homme. On cite souvent ce mot de Pascal sans connaître sa signification. L'homme est trop fort pour l'homme. Je ne suis pas fichu de me comprendre. Il n'y a aucun homme au monde, les plus grands philosophes n'ont pas essayé de comprendre ce que c'était que l'homme, ce que c'était que l'esprit. Pas fichu de savoir ce que c'est que mon esprit. Je m'en sers à longueur de vie pour vouloir, pour aimer, pour comprendre, pour me souvenir, pour imaginer, pour commander à mon corps. Je ne suis pas capable de savoir ce que c'est mon esprit. Alors mes chers amis, si vous n'êtes pas capable de comprendre votre esprit, il faut vous attendre à ce que par hasard, si Dieu existe, vous ne soyez pas capable de comprendre Dieu. Parce que, à mon avis, Dieu, s'il existe, il doit être un petit peu plus intelligent que vous-même, non? Quand je m'adresse à des couples, je prends quelque chose de plus simple. Messieurs, ça fait combien de temps que vous connaissez votre femme? Il y en a, ça fait 30 ans qu'ils connaissent leur femme. C'est l'être au monde qu'ils connaissent le mieux, parce qu'ils l'aiment le plus. Eh bien, au bout de 30 ans de mariage, la plupart des hommes ne savent pas encore ce que c'est que leur femme. C'est bon signe, d'ailleurs. Oui. Aimer, c'est être sans cesse en mouvement à cause du mystère d'un être. Quand on n'aime pas quelqu'un, on la catalogue. T'es une matuvue, t'es une paresseuse, t'es une ceci, t'es une cela. Tandis que quand on aime, on n'en finit pas de s'émerveiller. T'as pas fini de m'étonner, ma belle. Alors, messieurs, si vous n'arrivez pas à comprendre votre femme, vous devez vous attendre à ce que, si Dieu existe, il soit un tout petit peu plus intelligent que votre femme. Tout le monde comprend cela. Donc, premier temps, je trouve tout à fait normal que Dieu soit mystérieux pour mon intelligence. C'est la moindre des choses. C'est le béaba de l'enseignement religieux. Si vous faites de la catéchèse, depuis le CE2 jusqu'en terminale et au niveau universitaire, vous devez sans cesse rappeler que Dieu est Dieu. Peut-être même que dans le ciel, il continuera à nous étonner. Ah, pourquoi t'existes ? Vous savez que Dieu, il sait pas pourquoi il existe, hein ? On a le vertige. Tenez, l'abbé Pierre, il est entré, quand il a trouvé la foi en terminale, il est entré chez les Capucins avec l'idée de contempler à longueur de vie ce Dieu dont il avait retrouvé la personnalité. Dans son testament spirituel, il rappelle que pendant des heures, il restait à la chapelle des Capucins en répétant en latin « O ens etiam esto »« Ô toi qui es l'être, ô vie, sois »« Je me réjouis que tu sois, tu es » En hébreu, ça se dit « Kavod », la gloire de Dieu, c'est le poids de Dieu. Il pèse de tout son poids. Vous auriez très bien pu ne pas exister, hein. Si vos parents s'étaient cassés la figure avant votre conception, vous ne seriez pas là et personne ne s'en serait aperçu, hein. Et moi non plus, ça serait, hein. On aurait très bien pu ne pas exister. On est vraiment... Vous êtes peut-être le petit dernier arrivé 10 ans après les autres, là, hein. Vos parents ne vous attendaient absolument pas, c'était pas programmé. Ils vous ont quand même accepté, tant mieux. Tant mieux pour vous et pour nous. Tandis que Dieu, il est de toujours à toujours. Quel mystère. Bon, donc premièrement, faut pas vous étonner que Dieu soit mystérieux. C'est la moindre des choses qui dépasse notre esprit. Vous voyez, je dirais même plus, comme Monsieur Dupont dans Tintin, je dirais même plus, si Dieu n'était pas mystérieux, pour moi, il y aurait une difficulté dans mon intelligence. J'arriverai à comprendre Dieu qui est au-dessus de moi et je ne serai pas capable de me comprendre moi-même. Ça serait une difficulté. Et alors si en plus de ça, Dieu qui restait caché pendant des siècles, vous savez que c'est la révélation chrétienne, pendant des siècles, Dieu il a laissé les hommes le chercher. Hein ? Allez les enfants, je ne vous dis pas qui je suis. Hein ? J'expliquerai beaucoup ça demain. Et puis il y a 20 siècles, c'est avant-hier dans l'histoire de l'humanité, Dieu il est venu en nous disant ce qu'il était. Je vais vous expliquer, on est 3. Alors là je suis complètement dépassé par l'événement. Dieu que je peux déjà atteindre un peu mon intelligence en regardant le monde, il est mystérieux. Mais alors Dieu qui vient nous révéler le mystère de sa vie intime, là je suis complètement dépassé par l'événement. Et le Verbe s'est fait chair. Quand je pense qu'il y a encore des imbéciles qui disent que Dieu et que le christianisme est prise de corps. Ça mérite un zéro pointé dans une dissertation d'histoire des idées. Dieu qui méprise le corps répète un peu cette imbécilité. Alors que nous affirmons que Dieu a pris un corps pour toujours. Le grand thème des JMJ 2000. Le Verbe s'est fait chair. Pour toujours. Il n'y a aucune religion au monde qui ose affirmer que le corps a tellement de dignité qu'il y a un jour où il y a eu du magnésium, du calcium, du potassium, de l'oxygène et du carbone, qui était le carbone, l'oxygène et le magnésium de Dieu. C'est énorme. Et ressuscité, Jésus conserve un corps. Quel mystère. Donc, premièrement, c'est normal que j'arrive pas à comprendre. Deuxièmement, alors pourquoi je crois à tous ces mystères? Oh, c'est très simple. Parce que c'est dans le petit livre rouge. C'est parce que... Alors, et que j'ai des raisons de croire que c'est la parole de Dieu. J'aurais peut-être des questions là-dessus tout à l'heure, je peux pas tout dire en même temps, hein? Parce que c'est Dieu qui le dit. Et uniquement parce que Dieu se le dit. Tenez, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, à la fin de sa vie, vous savez, dans les 8 derniers mois, elle a eu beaucoup de mal, elle a été tentée de douter de l'existence du ciel. Elle était bombardée par toutes les objections des matérialistes. Petite fille, tu t'imagines que tu vas au ciel et que tu passeras ton ciel à faire du bien sur la terre. Quand tu seras au cimetière, il ne restera rien de toi. Comment fait-elle pour réagir à cette difficulté? Mais elle se rappelle ce qui se trouve dans la Bible. Jésus, tu as dit, là où je suis, vous serez vous aussi, puisque tu le dis, c'est vrai. Et donc, elle n'a jamais douté de l'existence du ciel. Elle a eu des doutes, mais elle n'a jamais douté. Le mot doute en français est ambigu, il peut y signifier une difficulté qu'on a dans sa foi, sur l'Eucharistie, sur le ciel, sur l'enfer, sur le purgatoire, hein, sur un sacrement. Elle a eu des difficultés, elle a eu des doutes, mais elle n'a jamais douté. Elle n'est jamais tombée dans l'acte du doute, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais devenue normande. Vous savez, les Normands, peut-être bien cuit, peut-être bien non. Non, elle n'est pas tombée dans le doute, elle est sûre. Si Jésus l'a dit, c'est vrai. Et puis, deuxièmement, c'est l'Église. Si vous ne croyez pas à l'Église, mes chers amis, c'est normal que vous ayez énormément de difficultés vis-à-vis de tous ces mystères. C'est pas. Qu'est-ce qui me dit que je ne dois pas prendre, d'une façon métaphorique, d'une façon symbolique, l'Eucharistie ? Ceci est mon corps, ceci est le calice de mon sang. C'est l'Église qui, depuis toujours, a dit « ça, petit père, ça prendra la lettre ». C'est le béaba de la théologie, mes chers amis. Je vais parfois en terminale, j'y suis encore allé plusieurs heures ces temps derniers, pour expliquer ça, la différence entre la philosophie et la théologie. Dans tous les séminaires de France, c'est une méthode qui date du XVIIe siècle. Je vous rappelle que ce sont trois prêtres français qui ont inventé au XVIIe siècle les séminaires. Et chose curieuse, au XXe siècle, on continue encore à faire les séminaires suivant cette méthode inventée par trois Français du XVIIe. Monsieur Ollier, fondateur des prêtres de Saint-Sulpice, Monsieur Vincent, fondateur des Lazaristes, Vincent de Paul, et Saint-Jean Eudes, fondateur des Eudistes. Donc, 2 années de philosophie, 4 années de théologie. Mais en théologie, pourquoi je crois que Jésus est né d'une Vierge? Il est né de la Vierge Marie. Parce que l'Église, depuis tout de suite, a dit, ça les enfants, c'est à prendre à la lettre. Dans la Bible, il y a un tas de choses que je ne prends pas à la lettre. Il y a des centaines de passages que je prends d'une façon symbolique. Quand je dis Dieu est mon rocher, Dieu n'est quand même pas du granit. Dieu est mon bouclier, Dieu est mon soleil. Seigneur, prête l'oreille à ma prière. Dieu n'a pas d'oreille. Fais briller sur nous ton visage. Dieu n'a pas de visage. C'est une façon de dire que Dieu est quelqu'un. Il y a un tas de symbolisme. Oh, il a pris un visage en Jésus-Christ. Je suis même en train de préparer, j'ai corrigé dans le TGV un petit bouquin que je suis en train de faire sur le sourire de Jésus. Donc, je crois profondément que Dieu a pris un visage en Jésus-Christ. Mais le Père n'a pas de visage. L'Esprit, ça non plus. Donc, il y a un tas de passages symboliques. D'accord ? Mais de temps en temps, l'Église, ça, petit Père, c'est à prendre à la lettre. Et c'est ce qu'on appelle un dogme. Un dogme, c'est une parole d'évangile, un aspect de l'Évangile que l'Église, depuis toujours, me dit de prendre à la lettre. Il y a un tas de passages, vous voyez, sur lesquels l'Église ne se prononce pas. Par exemple, au dans de Cana, Jésus a-t-il dit « Mon heure n'est pas encore venue » ou bien « Mon heure n'est-elle pas encore venue ?» Parce que dans les manuscrits grecs, il n'y a pas de point d'interrogation. Donc, il y a trois. Dans mon petit livre sur Marie, je montre les trois interprétations possibles de ce passage de l'Évangile. L'Église ne dira jamais comment il faut lire ce passage d'Évangile. Elle laisse les spécialistes, les exégètes, se disputer gentiment entre eux sur ces questions-là. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut discuter dans l'Église. Hein ? Mais de temps en temps, l'Église dit « Tchoc !» L'Église a reçu du Seigneur le pouvoir d'interpréter la vérité dans les passages difficiles. L'Église, depuis toujours, a dit l'Eucharistie, la conception virginale, ça c'est à prendre à la lettre. On appelle ça un dogme. Et troisièmement, une fois que j'y crois, j'essaye de comprendre. Et c'est ce qu'on appelle la théologie. Et c'est pour ça que les futurs prêtres, ils font 4 ans de théologie. C'est pas uniquement pour apprendre. Si on fait du séminaire, c'est pas uniquement pour apprendre à jouer au basket et au foot, même si en général les séminaristes sont assez forts là-dedans. Mais c'est pour essayer de comprendre l'Évangile. Non pas pour avoir une grosse tête et être orgueilleux, ce qui serait quand même un comble, mais parce que les enfants, justement, les petits, comme on disait tout à l'heure, les curés d'Ars et les Bernadettes, ils comprennent, ils savourent la parole de Dieu, les mystères. C'est miam miam. Et je vais vous transformer cet après-midi en étudiant novice en théologie. Parce qu'il y a un tas de gens, même parfois qui font des études supérieures en théologie, ils ne sont pas passés par l'école maternelle. Alors j'aime bien enseigner le béaba de la théologie. Une science tout à fait originale, c'est pas la physique, pas la chimie qui est devenue une science de plus en plus déductive. Maintenant à partir de la formule d'un corps, on déduit toutes ses propriétés quand on fait de la chimie à l'université. C'est pas les mathématiques bien sûr non plus, c'est pas l'histoire et la géographie, c'est la théologie. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous prenez un mystère, n'importe lequel, auquel vous croyez, déjà. sur la parole de Dieu. Et vous n'allez pas le prouver. On ne prouve pas les mystères. On les croit uniquement sur la parole de Dieu. Mais puisque le Seigneur nous a dit que c'était comme ça, il doit y avoir quelque chose à comprendre. Ça doit être miam miam, savoureux. Et alors on va éclairer ce mystère par l'ensemble des mystères chrétiens. C'est une méthode de cohérence. On va tout de suite faire des TP. Hein. Dieu, en éclairant le mystère particulier par l'ensemble du mystère chrétien, le clair-obscur devient un petit peu plus clair tout en restant obscur. Et c'est là où il faut avoir justement l'esprit d'enfance, accepter que Dieu restera toujours un peu mystérieux pour notre intelligence. Ce n'est pas une raison pour ne pas savourer les mystères, pour mieux les vivre. J'ai voulu commencer tout de suite par le plus difficile avec vous. Comme ça, si vous restez, ça prouve que j'ai fait le plus difficile, hein, fait exprès. Maintenant que je vous dis que c'est le plus difficile, j'aurais pu commencer par le plus facile. On va faire deux TP. Je vais prendre un mystère qui passe difficilement dans la pensée contemporaine. Justement, qu'est-ce que c'est que cette histoire que Marie n'a pas eu de relation sexuelle avec Joseph pour mettre au monde son petit Jésus? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On s'en moque régulièrement. On voit bien que l'Église s'est faite curée, qui se méfie de la sexualité. Alors ils n'ont pas voulu que Jésus naisse d'un rapport sexuel, que Jésus soit conçu d'un rapport sexuel entre son papa et sa maman. C'est bien connu, c'est la méfiance des clercs pour la sexualité. Bien sûr que ça n'a rien à voir avec ça. Pourquoi vous êtes ici cet après-midi, mes chers amis? Je parie que vous n'y avez pas pensé une seule seconde depuis cette semaine. Pourquoi vous existez? Parce qu'un soir, vos parents se sont tendrement aimés. Vous êtes le fruit d'une étreinte sexuelle. Vos parents ne vous ont pas demandé la permission pour vous mettre au monde, hein? Non, non. Un jour, vous avez réalisé que vous étiez arrivé sur la planète Terre. Et j'espère que vous ne dites pas comme tant de poètes, « Maudit soit le soir où ma mère m'a conçu ». Nous, nous sommes ici non pas parce que nous l'avons désiré, mais parce qu'on nous a expédié dans l'existence sans nous demander notre permission. Eh bien, si vous allez à fêter Noël le 25 décembre, vous célébrez la naissance d'un petit enfant qui échappe totalement à cette définition. Il est là couché sur la paille entre le bœuf et l'âne, la compagnie de Jésus. Oh, la dernière fois que je suis venu à Nantes, c'est rue du Gommier pour parler chez les jésuites. Bon. Bon, il est là sur la paille entre le bœuf et l'âne. Non pas parce que papa et maman, ils ont voulu d'un petit bébé pour avoir un petit bébé sur lequel se pencher pendant toute une vie, non, non. Alors ici, accrochez bien vos ceintures, s'il vous plaît. Hein. Il est venu là de lui-même, parfaitement. Il préexistait à son papa et à sa maman. Qu'est-ce que vous dites? Un enfant qui préexiste à son papa et à sa maman? Parfaitement. Si vous n'y croyez pas, nous resterons bons amis, mais alors vous n'êtes pas chrétien pour deux sous. Vous butez sur le premier grand mystère chrétien. Jésus, ce n'est pas un fils d'homme. C'est pas une personne humaine. Si vous êtes ça, vous êtes hérétique. Comme le patriarche de Constantinople qui a été condamné par le concile d'Éphèse en 431. Jésus n'est pas une personne humaine. C'est pas une personne humaine qui a été conçue comme les autres enfants d'un rapport sexuel. C'est quelqu'un qui préexiste de toute éternité à son papa et à sa maman. Vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Ça, c'est une façon de parler, parce qu'il n'est pas descendu en hélicoptère. Hein? Donc, je suis en train d'éclairer le mystère particulier de la conception virginale, l'absence de spermatozoïdes de Joseph dans la conception du petit Jésus, par un mystère encore bien plus grand, le mystère de l'incarnation, dont il n'est qu'une petite conséquence. Je ne prouve pas la conception virginale, mais je l'éclaire par l'ensemble du mystère chrétien. Si Jésus avait été conçu comme vous d'un rapport sexuel entre son père et sa mère, il serait comme vous une personne humaine qui ensuite aurait été habitée par Dieu. Mais moi aussi je suis une personne habitée par Dieu. Nous sommes des personnes humaines habitées par Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mais nous ne sommes pas le Fils de Dieu en personne. Celui qui meurt sur la croix, ce n'est pas une personne humaine, c'est une personne divine. Il n'y a qu'un moi en Jésus, c'est le moi du Fils de Dieu. Beaucoup de chrétiens l'oublient aujourd'hui. On insiste tellement sur l'humanité de Jésus, et comme c'est vrai, mais on oublie qu'il est le Fils de Dieu en personne. Quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle, c'est le Fils de Dieu en personne. Et vous comprenez que le mystère, de ce grand mystère de l'incarnation, de cette préexistence éternelle du Verbe, éclaire prodigieusement le mystère de la conception virginale. Ce que je voulais prouver, que la théologie ne prouve pas directement un mystère, mais elle l'éclaire par un autre mystère. Je vais prendre tout de suite deux exemples difficiles. L'Eucharistie. Il n'y a jamais personne qui va comprendre l'Eucharistie. Il n'y a aucun livre en librairie catholique, hein, ou protestante d'ailleurs, bon, il n'y a aucun livre orthodoxe ou anglicane qui va vous prouver que c'est comme ça. On ne sent pas que c'est le corps du Christ. On y croit de tout son cœur. Moi, ça fait près de 50 ans que je célèbre la messe tous les jours. Je n'ai jamais senti Jésus dans mes mains. Et je ne cherche pas à le sentir. J'ai passé des heures et des heures devant le Saint-Sacrement. Je n'ai pas senti que c'était Jésus qui était là. Je ne cherche pas d'ailleurs à le sentir. Il y en a qui ont cette expérience-là. C'est bien, mais c'est exceptionnel. On appelle ça une expérience mystique. Elle n'est pas nécessaire. Thérèse de l'Enfant Jésus n'a jamais senti que c'était Jésus qu'elle adorait dans le Saint-Sacrement. Elle n'a jamais senti. Même s'il y a une expérience très importante. Il y en a qui ont une expérience très spéciale. Bon, c'est l'exception qui confirme la règle. Ce n'est pas indispensable pour être chrétien. L'Église dit même qu'il faut plutôt se méfier de ça. L'Eucharistie, j'y crois uniquement parce que Jésus a dit « Ceci est mon corps, ceci est le calice de mon sang » et que l'Église, depuis toujours, a dit qu'il fallait prendre ses paroles à la lettre. Je vous signale qu'il n'y a pas eu de concile là-dessus, parce que pas plus qu'il y a eu de concile sur la conception virginale, tellement pour l'Église, c'est évident que c'est comme ça. Mais ensuite, j'essaye d'éclairer ce mystère pour mieux le vivre. C'est ce que fait l'Église après chaque consécration. Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. La mort de Jésus, la résurrection de Jésus, son retour dans la gloire, éclaire, sans le supprimer, le mystère de l'Eucharistie. La mort de Jésus. Jésus veut nous rappeler sa mort d'une façon concrète. Si j'étais protestant, ne croyant pas au réalisme de la présence réelle, qu'est-ce que je dirais à mes frères au cours de la Sainte Cène? Regardez le crucifix qui se trouve dans le fond du temple, mes frères. Et c'est beau, Jésus nous rappelle sa passion. Et ça donne les chorales de Jean-Sébastien Bach, c'est magnifique. Mais Jésus sait que les hommes ont besoin d'autre chose. Alors il a inventé cette réalité extraordinaire de l'Eucharistie, où il nous met son corps crucifié dans les mains. Pour que nous ayons dans les mains un souvenir concret de sa mort d'amour. Prends et mange ton Dieu et tais-toi, le corps du Christ, le corps du Christ. Et Jésus vous embrasse, mes chers amis, comme un époux embrasse sa bien-aimée. Qu'est-ce qui éclaire le mystère de l'Eucharistie? Cet amour fou de Dieu pour nous. Il nous aime comme un époux qui embrasse sa bien-aimée. Il n'y a pas que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui considérait que la communion était un baiser d'amour. Tous les pères de l'Église ont imaginé cela. Viens ici, ma belle, que je t'embrasse dans mes bras. Ceci est mon corps livré pour toi. Jésus vous dit ce qu'un époux peut dire à sa belle avant de se donner à elle. Ceci est mon corps livré pour toi. Tant que vous ne considérerez pas que l'Eucharistie, c'est vraiment une étreinte d'amour. Mais l'Eucharistie, c'est vraiment Jésus qui embrasse chacun d'entre nous. Viens ici que je t'embrasse avec mon corps crucifié et ressuscité de ses mains transpercées. Jésus veut t'empoigner, laisse-toi capturer. Oh, comme je voudrais que vous réalisiez à quel point Jésus veut nous aimer comme un époux. Je vais faire bientôt dans mon diocèse des conférences sur le petit Van. Je vous encourage beaucoup à acheter les petits bouquins sur ce merveilleux vietnamien, disciple de Sainte Thérèse, qui sera certainement canonisé un jour. Et Jésus lui dit, c'est pas parce que t'es un garçon que t'es pas mon épouse, hein? Malheur aux prêtres et aux religieux qui ne considèrent pas leur âme comme mon épouse, car je viens vous aimer tous d'une étreinte nuptiale. Ceci est mon corps livré pour vous. La mort d'amour de Jésus éclaire prodigieusement le mystère de l'Eucharistie. Nous attendons ta venue dans la gloire. Vous êtes étonnés que chaque jour, il y a des kilos de pain qui sont transformés au corps du Christ, des hectolitres de vin qui sont consacrés en son sang. Quel mystère sur la planète. Mais un jour, justement, dans ces derniers dimanches après la Pentecôte, nous nous rappelons, un jour, ce n'est pas seulement quelques kilos de pain et quelques hectolitres de vin qui seront transfigurés au corps et au sang du Christ. C'est le cosmos tout entier qui deviendra autre, qui sera transfiguré. quand je vois sur l'autel le pain et le vin, que je fais la génuflexion devant ce pain et ce vin qui sont devenus corps et sang du Christ. Je me dis, Seigneur, un jour, c'est pas seulement un peu de pain et de vin qui seront transfigurés, c'est le monde tout entier qui deviendra ton corps et ton sang, qui deviendra corps de Dieu. Mon corps lui-même sera ressuscité. Le Concile Vatican II dit bien que la transsubstantiation du pain et du vin, c'est l'annonce, c'est le gage, sont les arts, comme dit saint Paul, de la transfiguration finale du cosmos. Je ne supprime pas le mystère, mais je l'éclaire par un mystère encore bien plus grand. Nous attendons ta venue dans la gloire, lorsque tu viendras changer tout, transfigurer le monde et en faire des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Et cette petite transformation qui se fait sur l'autel, c'est l'annonce de cette transformation encore bien plus grande que nous attendons pour la fin des temps. C'est un petit peu difficile, mais c'est magnifique. Vous voyez que ce n'est pas du tout pour faire les malins, ce qui serait le comble, que ça vous fasse devenir orgueilleux. Mais un enfant, justement, il veut comprendre. La théologie, c'est pour les enfants. Vous savez combien les adultes sont précipités au catéchisme du curé d'Ars parce qu'ils voulaient comprendre ce que le curé d'Ars expliquait aux enfants du catéchisme de son village. Je résume, trois solutions devant les mystères. Ou bien on ne cherche pas du tout à comprendre, on met son intelligence au vestiaire, ça n'a jamais été la solution de l'Église. Deuxième solution, on veut tellement comprendre qu'on supprime les mystères, ça donne toutes les hérésies, tous les hérétiques de l'histoire de l'Église qui ont voulu tellement expliquer qu'ils ont supprimé les mystères. Et puis la troisième solution, eh bien, il est normal que Dieu soit mystérieux, puisque je n'arrive déjà pas à me comprendre moi-même, mais je crois à ces mystères parce que l'Église nous dit de prendre à la lettre telle et telle parole d'Évangile, et une fois que l'Église me le dit, eh bien je me dis, il doit y avoir des raisons, et sous l'influence de l'Esprit-Saint, on comprend de plus en plus des choses. Parfois, c'est le peuple de Dieu qui précède de beaucoup la hiérarchie. Le plus bel exemple, c'est la fête du 8 décembre. À force de dire « Je te salue pleine de grâce », le peuple chrétien s'est dit « Il doit y avoir une plénitude de grâce chez Marie, allant jusqu'à l'absence totale de péché originel. » Et les théologiens, les gens d'église disent « Oh, le bon peuple de Dieu, il exagère dans sa piété mariale. La Sainte Vierge, elle a quand même été pécheresse comme tout le monde, puisque Jésus est mort pour tous les hommes. » Donc saint Bernard, au XIIe siècle, ne croyait pas à l'Immaculée Conception. Saint Thomas d'Aquin, dominicain, au siècle suivant, n'y croyait pas davantage, et c'est pourtant des très grands saints, et même des docteurs de l'Église. Et puis, il y a un petit franciscain de rien du tout, qu'on avait surnommé le docteur subtil, à cause de la subtilité de cette distinction. Le pape Jean-Paul II vient de le béatifier il n'y a pas longtemps. Un Écossais, d'un Scot, il a sauvé la piété mariale du peuple chrétien, au XIVe siècle. Inventer une petite distinction de rien du tout. Il a dit, la Sainte Vierge, elle a été rachetée comme tout le monde, un terme qui a été repris par Vatican II, seulement non pas sous forme de guérison, mais sous forme de préservation. Au lieu d'être guéri de la grippe, on peut être vacciné et ne pas l'avoir. Eh bien, la Sainte Vierge, elle a été sauvée, non pas par mode de guérison, mais par mode de préservation. Elle a été préservée du péché originel. Et du coup, l'idée a suivi son cours, et de plus en plus, les chrétiens ont cru à l'Immaculée Conception, où le pape Pie IX, en 1854, a proclamé ce dogme à la grande joie de toute l'Église universelle. Donc, vous voyez, souvent, l'Église, sous l'influence de l'Esprit-Saint, elle comprend de mieux en mieux la richesse du dogme qu'elle contient dans son Évangile. Ainsi soit-il. Voilà.